Le plus dur en tout point, c'est de commencer. C'est la première brique. On avait 21 et 22 ans. Je crois que c'était l'ignorance du risque, du doute, d'être dans un état d'esprit, de ne pas faire ce qu'on aime, mais de faire ce qu'il faut. C'était réellement mission après mission. On a fait 3 ans sans un jour de repos. Mais comme l'ambition est plus forte que la condition au moment de la difficulté, bah, tu souffles, tu bois un grand verre d'eau et tu repars. Il n'y a pas d'autre choix que de s'endurcir et puis de passer à l'étape d'après sans être dans la fuite en avant, mais en étant convaincu que tout a de la saveur, tout a du goût et le plaisir est aussi là dans la pas que dans la réussite.
Depuis 2017, j'accompagne et côtoie des entrepreneurs à succès. Chaque rencontre est unique et permet d'identifier ce qui crée la réussite. Je suis Alec Henry, l'initiateur du mouvement Entrepreneurs.com. Et dans ce podcast, j'ai l'opportunité d'échanger avec des personnalités inspirantes qui ont su créer la différence. Avec Le Déclic, je vous offre une perspective unique afin que vous puissiez à votre tour faire la différence. Salut Antoine.
Salut Alec.
Comment tu vas?
Formidable, toi aussi.
Eh bien écoute, en pleine forme, je suis super content de faire cet épisode avec toi. Pourquoi? Parce que je suis un de tes clients, un de tes nombreux clients. Je pense qu'ils sont très nombreux en France et peut-être même que beaucoup de personnes qui nous écoutent aujourd'hui ont déjà été clients de It's Salad. Donc je suis avec le cofondateur de It's Salad aujourd'hui, bâtisseur avec ton frère Joseph d'un réel concept. Salade bar à la française offrant des repas sains, rapides et de qualité. Leader de la salade sur mesure en France. Un chiffre d'affaires de 66 millions d'euros cette année et cumulant plus de 220 millions d'euros de chiffre d'affaires depuis la création du concept le 22 avril 2013. Aujourd'hui, It Salad compte plus de 73 restaurants en France, 31 restaurants en travaux, arrive aussi bientôt au Canada et en Espagne. Votre objectif, il est clair, devenir leader mondial de la healthy food. Votre vision, offrir une alimentation saine et accessible tout en conservant l'aspect pratique du fast food. Votre particularité, c'est que l'ensemble de vos restaurants sont franchisés, ce qui fait de vous de réels experts du concept de la franchise, on en parlera également. Et puis, vous êtes aussi impliqué dans 2 autres projets, dont une poudre hémostatique, ReMedicine, et un système de QR code dynamique pour les entreprises qui est Basilic. Donc, hâte de vivre ensemble ce moment, ce partage, cet épisode. Merci d'être présent ici pour nous. Je sais qu'en plus, tu fais partie des très nombreux auditeurs du podcast Le Déclic. Donc, c'est vraiment un plaisir pour moi d'échanger avec toi dans le cadre de cet épisode. Et bravo pour ton parcours.
Merci beaucoup.
Alors, avant de démarrer et justement de revenir sur pas mal de choses de ton parcours et différentes choses que l'on va pouvoir partager à l'égard de ton parcours entrepreneurial avec ton frère, des franchises, différents conseils liés à l'entrepreneuriat en général, j'ai envie de revenir sur le commencement, c'est-à-dire que j'ai envie de savoir, avant de partir pour les États-Unis et de découvrir ce concept qui a changé littéralement votre vie, qu'est-ce que tu faisais avant d'en arriver là? C'est quoi l'histoire, le parcours de Antoine et Joseph? Est-ce que tu avais déjà envisagé d'entreprendre ou quelle était ta vie professionnelle? Quel tournant est-ce qu'elle prenait par rapport à aujourd'hui?
Écoute, merci en tout cas pour cette belle présentation. On avait 21 et 22 ans quand on a eu l'idée avec Joseph, donc finalement on avait une vie professionnelle qui était assez courte, bien qu'elle fût dense par les nombreux stages qu'on a effectués, mais qui étaient des tâches très basiques, de manutention. Pour la petite histoire, on a une mère espagnole et un père breton. On est né à Cannes, mais on a grandi à Brest. Et notre père vendait des poulets rôtis sur le marché. Donc on a appris un petit peu à l'ancienne les valeurs de travail, de rigueur, d'effort et de commerce évidemment, mais sans une structuration, une anticipation très forte. Et donc on peut parler un petit peu plus d'instinct pour le coup. Ce qui est sûr, c'est qu'avec Joseph, on avait ce tempérament un peu patron, un peu leader, où on préférait donner des consignes plutôt qu'en recevoir. Et on avait, pour justement mener à bien ses ambitions, une capacité de travail un petit peu supérieur, si tu veux, à nos amis de classe qui pouvaient parfois manquer un petit peu de punch et de détermination sur certains sujets. Je crois que le fait d'être à deux également nous a donné une dynamique, une force supplémentaire, un soutien fraternel, hein, donc de surcroît très très puissant. Mais de l'idée au projet, c'est vrai que on ne savait pas vraiment ce qu'on allait faire. Joseph est diplômé d'un BEP Bac Pro Cuisine, donc il a quand même un diplôme en cuisine, et il voulait lui monter une pizzeria suite à une expérience réussie chez Domino's Pizza. Et lorsque mon contrat de travail se terminait aux États-Unis, il n'a pas été renouvelé. J'étais un petit peu dans l'impasse, puisque je me retrouvais finalement sans papier. Je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Et j'ai vu sur Times Square une file d'attente qui formait un L sur la chaussée. Donc les clients étaient mobilisés sur la chaussée pour attendre de manger une salade. J'ai dit, c'est quand même incroyable avec une offre aussi dense d'avoir autant de consommateurs pour un produit aussi simple que de la salade. J'ai appelé Joseph, il a mis 4 secondes à se positionner. Je l'ai détourné de la pizzeria pour partir sur la salade et on a mis 18 mois de l'idée au projet. On s'est réunis 6 mois après le coup de fil en question. Pendant ce temps-là, il avait été à Londres, il avait été regarder à gauche, à droite, ce qui était proposé. Moi, j'avais continué justement de sourcer de la data sur le territoire américain, donc New York, Washington. J'ai vraiment creusé à la source un petit peu les méthodologies de travail américaines et on a mis en commun. On s'est retrouvés, je me souviens qu'on a sous-loué une cave à Bordeaux. On n'habitait même pas Bordeaux, hein. On a commencé le premier à Bordeaux puisque c'était la ville de France où il y avait le plus de restaurants rapides par rapport au nombre d'habitants. Donc on s'est dit, si le concept fonctionne à Bordeaux, il risque de fonctionner partout. Et donc de l'idée au projet, 18 mois, on est parti d'une feuille blanche où nous avons trouvé le nom, la charte graphique, le code couleur, avec comme base deux cahiers des charges, un concept transmissible. Il devait y avoir un savoir-faire secret transmissible aux franchisés. Et ça nous a vraiment, on va dire, drivé dans la marche à suivre.
Ouais, c'est hyper intéressant. Merci déjà pour la genèse du projet. On va revenir sur certains passages, certains moments, notamment au départ. J'imagine qu'il y a eu plein de questions que vous êtes posées, plein de doutes peut-être que vous avez eu, plein de challenges auxquels vous avez dû faire face. J'ai envie de revenir sur un point qui est extrêmement intéressant, c'est que directement, dès le démarrage, vous avez déjà cette vision de la franchise, vous avez déjà cette envie de pouvoir faire en sorte que votre concept puisse être transmissible. Qu'est-ce qui fait que tout de suite, vous pensez à ça? Parce que souvent, c'est l'inverse. Les gens vont créer quelque chose et puis vont se dire, ah tiens, le modèle de la franchise est un modèle d'expansion qui peut être viable par rapport à mon projet, alors que vous, c'est vraiment l'inverse. Vous avez conçu l'idée, le projet de base qui soit parfaitement transmissible avec cette vision de franchise pour pouvoir scaler.
Merci pour la question. En effet, le système de franchise, tu sais, c'est l'outil de levier financier le plus attractif qui fut, qui est et qui ne sera certainement égalé. Il y a eu beaucoup de définitions, plus ou moins justes, mais personne ne saurait contredire que c'est un levier financier qui permet de financer le développement. On a face à nous des entrepreneurs indépendants qui ont leur nom sur le contrat de travail, leur nom sur le bail commercial et sur l'offre de prêt. Donc ils ont une motivation évidemment supérieure à n'importe quel autre profil, puisqu'ils sont engagés financièrement et moralement, et en plus de ça, on poursuit la même ambition. Donc c'est une massification des achats, c'est évidemment une communication nationale, locale, régionale, c'est une force de frappe supérieure. C'est vrai que pour pouvoir prétendre à faire de la franchise, il fallait avoir un modèle, un pilote, qui soit déjà avec une attractivité supérieure à un modèle d'un indépendant isolé, sinon personne ne serait intéressé par signer une franchise. Et aussi, il y a la capacité d'animer, de faire vivre finalement les centres de profit de nos franchisés et de mailler le territoire. On rentrera, si tu veux bien, dans le détail de justement la stratégie de saturation de marché, mais je crois qu'il faut commencer déjà par un positionnement marketing différencié, puisque c'est ce positionnement marketing différencié qui détermine la stratégie de saturation de marché. Et ça contribue évidemment au développement et la réussite de la notoriété de l'enseigne et de ses franchisés. Ce que je veux dire en synthèse, c'est dans un réseau de franchises, chaque décision qui est prise par le franchiseur doit être bonne, si ce n'est meilleure pour les franchisés. Sans quoi, on n'est pas dans un format gagnant-gagnant et la notion de pérennité se dégrade. On est dans un état d'esprit, on a 33 et 34 ans avec Joseph, d'être des marathoniens et de ne pas être des sprinteurs. Et donc c'est la rigueur, le travail et la qualité qui vont nous permettre, avec de la constance évidemment, d'être de très bons marathoniens.
Ouais, complètement, complètement. Et c'est bien que tu fasses l'analogie justement du marathon, parce qu'on le voit, ça fait maintenant 10 ans que vous avez créé le concept. Au fur et à mesure des années, il y a de plus en plus de restaurants, il y a de plus en plus de chiffres d'affaires mécaniquement. Et puis aujourd'hui, effectivement, comme je l'évoquais en début d'épisode, 66 millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est considérable, c'est énorme. Et 220 depuis le début de l'aventure. Donc on voit effectivement, ou en tout cas on imagine une croissance relativement linéaire, j'irais même jusqu'à dire exponentielle, en proportion du coup du nombre de restaurants qui eh bien couvrent le territoire et puis même au-delà des frontières françaises vu que c'est le projet. Je reviens justement sur le démarrage. Après avoir partagé ton idée avec ton frère Joseph, Comment est-ce que vous avez géré les différentes incertitudes, les doutes, surtout pour un projet d'une telle envergure? On sait tous qu'un business physique, c'est un tout autre challenge qu'un business en ligne ou qu'un business type agence ou autre, où on a des frais qui sont complètement différents et selon le modèle de commercialisation, ça change tout, surtout quand on part de zéro. Quels ont été les facteurs clés qui vraiment t'ont donné confiance pour franchir le pas vers la création d'Eat Salad avec ton frère?
Eh bien, je crois que c'est finalement l'ambition solidaire, partagée et commune qu'on voulait conquérir le monde. Tu vois, ça faisait partie réellement de notre ADN de conquérant. Et on avait aussi cette fougue de la jeunesse, puisque le plus dur en tout point, c'est de commencer. C'est la première brique. On avait 21 et 22 ans, je me souviens des épisodes d'obtention des financements où on avait 40 000 euros d'apport. Donc on avait 20 000 euros chacun que notre grand-père nous avait laissé à la sueur de son front. Donc on s'est dit, bon, on a quand même un pactole, tout le monde ne commence pas dans la vie avec 20 000 euros chacun. Donc c'était déjà une étincelle. Maintenant, c'est vrai que le système français a de gros avantages, mais on n'est pas sur un modèle où on donne réellement sa chance aux novices. Et en restauration, il y a quand même eu beaucoup de cicatrices. En tant que consommateur, on n'est pas bien servi partout. Tu vois, c'est quand même un métier dans un métier. Et donc, je crois que c'était l'ignorance du risque, du doute, tu vois, d'être dans un état d'esprit de ne pas faire ce qu'on aime, mais de faire ce qu'il faut. De poser un petit peu le cerveau, en tout cas dans l'affect, pour se dire, on a des devoirs plus que des droits. Et donc, on va enfiler le bleu de chauffe, on va poser le cerveau, on va penser à Cristiano Ronaldo, on va penser à l'excellence, on va penser aux Spartiates et on va s'y filer. Et le fait d'être deux, quand il y en a un qui met le genou à terre, l'autre est là pour le redresser, ça c'est possible que si on va dans la même direction. Et avec Joseph, cette proximité, le fait qu'on ait 13 mois d'écart et qu'on soit unis depuis toujours avec les mêmes amis, la même garde-robe, on partage un grain de riz, tu sais, dans notre fratrie, donc c'est vrai que c'est un élément fort, mais je me souviens avoir eu 9 refus sur 10 de financement bancaire, d'avoir été acheter mon petit costume dans des enseignes de prêt-à-porter très classiques, entrée de gamme, on avait des codes avec Joseph où on se touchait le genou pour avoir des temps de parole équilibrés. Enfin, tu vois, c'était réellement des missions après mission après mission. Un petit peu comme dans un jeu vidéo où tu pars de rien à pied, puis tu achètes un scooter, puis une moto, puis une voiture, etc. C'est ce qui nous est arrivé. On était vraiment dans une cave au départ. Et puis, progressivement, de la cave, on est parti dans 9 mètres carrés au-dessus du premier restaurant. On avait une petite réserve où on dormait dans le même lit. Donc, tu vois, on avait 24 et 25 ans, on dormait dans le même lit, on a fait 3 ans sans un jour de repos. Mais 3 ans d'affilée sans un jour de repos, on a fermé le soir de Noël. Psychologiquement, c'est très dur. Mais comme l'ambition est plus forte que la condition au moment de la difficulté, tu souffles, tu bois un grand verre d'eau et tu repars. Il n'y a pas d'autre choix que de s'endurcir et puis de passer à l'étape d'après sans être dans la fuite en avant, mais en étant convaincu que... tout a de la saveur, tout a du goût et le plaisir est aussi là dans l'adversité, pas que dans la réussite.
Ouais, je retiens vraiment deux points, deux punchlines, je dirais même, qu'il faut absolument que celles et ceux qui nous écoutent retiennent. C'est que vous n'êtes pas dans la dynamique de faire ce que vous aimez, mais de faire ce qu'il faut faire. Ça, c'est le premier point clé qui devrait être appliqué par toutes les personnes qui nous écoutent. Et le deuxième point, c'est que l'ambition est plus forte que la condition au moment justement où vous lancez l'activité. Et je reviens dessus, c'est que ouvrir le tout premier Eat Salad avec des ressources limitées, ça a dû être un énorme challenge, tu l'as évoqué brièvement. C'était quoi les principales difficultés auxquelles vous avez été confrontés lors de l'ouverture de votre premier restaurant et quelles ont été les stratégies que vous avez adoptées pour les surmonter? Parce que finalement, tu l'évoques ici, 9 mètres carrés, vous dormez ensemble dans le même lit pendant 3 ans, pas de jour de repos, etc. Mais ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que pour qu'une franchise fonctionne, il faut éprouver le modèle. Il ne faut pas juste éprouver le modèle, mais il faut faire en sorte de le rendre le plus sexy possible pour les franchisés potentiels derrière, leur montrer qu'il y a de la réelle rentabilité, leur montrer qu'il y a de la croissance. Donc derrière, il faut vraiment faire un bel emballage cadeau, mais il ne s'agit pas juste d'un emballage cadeau parce que derrière, il faut aussi que le cadeau lui-même soit bon, parce que si vos franchisés ne durent pas, ne réussissent pas, c'est tout le modèle qui s'écroule. Et aujourd'hui, ça fait 10 ans, le chiffre d'affaires parle pour vous, les résultats parlent pour vous. Je pense que la plupart des personnes qui nous écoutent aujourd'hui, comme je le disais en amont, ont déjà eu le plaisir d'aller manger une salade chez vous au moins une fois. En tout cas, moi, c'était mon cas il y a déjà quelques années et j'ai pu voir. Donc, ouais, ça peut être intéressant de revenir sur cette étape, ce moment du démarrage, parce que c'est souvent dans les débuts qu'on apprend le plus et surtout, c'est malheureusement à ces moments-là, lorsqu'on fait face à des challenges, que beaucoup remettent en question leur projet ou même vont jusqu'à abandonner.
Oui, je l'entends et ça reste totalement une démarche humaine que d'avoir envie un peu de baisser les bras. Mais c'est finalement, c'est la différence entre ce que l'on veut maintenant et ce que l'on veut vraiment. Et nous, on le voulait vraiment. Et je crois que seul le travail paye. Le travail et la qualité, l'un va pas sans l'autre. Bien sûr que y a beaucoup plus, comme dans un jeu de cartes basiques que de joker, de roi, de reine. Tu vois, c'est réellement ça la vie, je crois. C'est finalement d'aller d'échec en échec avec toujours autant d'enthousiasme. C'est Churchill qui disait ça et ça m'a marqué parce que c'est ça la condition humaine. Dans notre aventure entrepreneuriale avec Joseph, la double complexité, c'est qu'on est jeune, on est en restauration rapide où c'est un marché quand même qui est très burger, très pizza, très kebab. On parle de salade, on parle d'un produit froid. Alors bien sûr, on a musclé le mix produit, la profondeur de gamme avec des soupes, des plats chauds, des sandwichs sur mesure. On a réellement une profondeur de gamme qui nous permet de développer des aéroports, des emplacements en gare, en station-service, ce qui est l'ambition assumée de la tête de réseau. On parlera de la saturation du marché et du maillage du territoire, mais l'un ne va pas sans l'autre. En tout cas, au démarrage, le plus dur, c'était de faire accepter pour le consommateur que la salade n'est pas un accompagnement et réellement un repas. Et puis pour les banquiers, les fournisseurs, quand on leur a dit, écoutez, monsieur le fournisseur, nous, on veut que vous puissiez livrer A pour B, donc lundi pour mardi, partout en France, à la même heure. Ils disent, mais vous avez même pas ouvert le premier restaurant, vous nous demandez déjà de livrer des points de vente hypothétiques. On lui dit, mais le problème, c'est que tout le travail de sourcing, de référencement, d'analyse de notre partenariat, eh bien si demain on doit le repenser à chaque fois qu'une boutique ouvre, bah finalement on est en incapacité de transmettre à un indépendant isolé une valeur ajoutée. Il va le faire sans nous, si on n'est pas en capacité de lui démontrer qu'il a plus d'intérêt à le faire avec nous. C'est d'ailleurs ça, pour moi, la seule définition qui se vale en franchise. C'est l'intime conviction qu'on a plus à gagner ensemble que séparément. Et c'est pas l'intime conviction, c'est la seule démonstration. Puisque la conviction, c'est bien, mais c'est de la démonstration qui permet finalement à tout le monde de savoir se positionner dans la relation. Et donc, on en parlera comment on peut justement garder le leadership sur le marché avec des franchisés tous propriétaires de leur territoire d'exclusivité, comment on est capable de plafonner les marges pour avoir une attractivité et un cercle assez vertueux. Mais c'est assez simple parce que le métier du franchiseur est un métier où on trouve des franchisés, on développe, on obtient des financements, on trouve des emplacements, on forme, on anime de manière locale, régionale, nationale, avec seule ambition, encore une fois, de partager la richesse. Et cette notion de partage, elle est possible qu'avec des porteurs de projets, qu'avec un état d'esprit bon père de famille sans être familial. Tu vois, c'est ça souvent le problème d'être finalement dans sa zone de confort. Les gens, je le remarque, c'est pas un jugement de valeur, hein, c'est vraiment un constat, c'est que les gens ont tendance à être un petit peu doux avec eux-mêmes et durs avec les autres, alors que je crois que c'est l'inverse qu'il faut faire. Si on est dur avec soi-même et doux avec les autres, bien on est dans une approche qui est beaucoup plus empathique, beaucoup plus noble, chevalière, et qui permet de progresser, puisque le combat, il est avec soi-même. Je crois qu'on est seul, on meurt tout seul, malgré le fait qu'on cohabite, et je veux pas faire de philosophie de comptoir ici, mais le combat, il est avec soi-même, et si on se couche le soir en ayant travailler un petit peu la patience, si l'impatience était une de nos axes de travail, la colère, etc., bah finalement, le combat est gagné, que ce soit dans l'entreprise ou même dans la vie perso. Mais je crois qu'à vaincre aussi sans péril, on triomphe sans gloire. Tu vois, le fait de se donner une ambition, c'est bloc par bloc. Si on pense à monter l'Everest et le sommet depuis le bas, la base, ça ne marche pas. Si tu penses 100 mètres, tu arrives à 100 mètres, tu plantes ton petit drapeau, tu te refais 100 mètres, c'est plus digeste, c'est plus accessible. Et je crois aussi qu'il n'y a pas de bon tempo dans la vie pour commencer, mais plus tu commences tard, ben plus tu as des responsabilités parce que tu es potentiellement chef de famille. Donc la notion de risque maîtrisé dans l'entreprise, dans l'entrepreneuriat, le risque il est permanent et la maîtrise du risque elle reste quand même assez volatile. Il y a des Covid, il y a des éléments de la vie qui font qu'on ne maîtrise pas toujours tout. Et donc ben plus tu as de responsabilités familiales, d'enjeux, d'engagements financiers déjà pris, moins tu as de liberté pour pouvoir enfiler le bleu de chauffe et te concentrer à 300% sur l'objectif qui est pour nous d'être le leader mondial aujourd'hui en salade, plat chaud et sans but sur mesure.
Complètement. Merci pour ces éléments. Je reviens sur un fait, tu l'as rapidement évoqué, mais vous partagez souvent dans d'autres interviews les difficultés que vous avez rencontrées pour avoir l'aide des banques. Le fait d'avoir des financements, le fait de réussir à se pitcher ou autre, que ce soit auprès des banques, auprès de VC ou autre, c'est un vrai enjeu pour beaucoup d'entrepreneurs, même certains qui nous écoutent, quand tu as une startup ou quand tu as un projet quel qu'il soit. S'il y avait un, deux ou trois conseils que tu voulais partager sur des stratégies que vous avez appliquées ou des stratégies qui a posteriori auraient pu vous aider maintenant avec l'expérience que tu as accumulée pour pouvoir justement obtenir finalement le financement nécessaire ou les financements nécessaires, quels sont ces différents conseils que tu aimerais partager ? Salut à vous tous qui êtes de plus en plus nombreux à écouter Le Déclic. Je tenais à prendre quelques instants pour vous en remercier personnellement. Grâce à votre soutien et votre écoute, nous connaissons une croissance fulgurante parmi les podcasts business en francophonie. Si aujourd'hui vous voulez améliorer votre karma, je vous invite à laisser un avis et 5 étoiles maintenant sur la plateforme de podcast sur laquelle vous écoutez cet épisode. Cela ne prend que quelques instants et ça aide énormément pour continuer de vous offrir des interviews de plus en plus inspirants avec des invités inédits. Je lis tous vos avis et ils représentent beaucoup pour moi. Maintenant, retour à l'épisode.
Eh bien, je crois que le premier, c'est d'avoir une vision, on parle d'un financement bancaire, une vision pessimiste pour plutôt être surpris plutôt que déçu. Donc une vision pessimiste, ça ne veut pas dire que c'est la jouer petit bras. Ça veut dire vraiment se dire, atteindre le point mort déjà. Pas se dire, je vais commencer à faire 3 millions d'euros la première année. Y aller bloc par bloc. Ensuite, la préparation. Réellement, je crois que c'est le résultat. La préparation, cette capacité justement à préparer les entretiens, préparer les rendez-vous, à transmettre de la documentation aux interlocuteurs, à faire des comptes rendus. Et surtout, ça c'est le liant, c'est de garder une pression dans le bon sens du terme permanente. Moi, je me souviens, et c'est pas de la légende. Hein. Le banquier, sur les 9, il y en a 9 qui nous ont dit non sur 10. Il en restait un. Et je me souviens, donc, notre destin était entre les mains de ce monsieur, s'il nous écoute. Merci, monsieur le banquier. Il était entre deux eaux. Bon, il nous a senti déterminés, on était vraiment volontaires, mais eh bien, on avait un petit apport, c'était quand même un projet ambitieux. On était junior en entrepreneuriat et la balance, elle était encore, elle n'avait pas encore penché dans le bon sens. Et je me souviens qu'on l'appelait, il ne nous répondait pas, on envoyait un mail, je l'appelais à 9h le matin, il ne me répondait pas, pour savoir quelle était sa position. À 11h, j'envoyais un mail, à 13h, j'étais dans son bureau, ou 14h. Et je me souviens, il était choqué, il me dit, mais attendez, vous croyez que j'ai vous comme client? Je lui dis, peut-être, moi, ma vie, c'est vous qui la tenez entre vos mains. Et je pense que d'avoir eu justement cette pression, il s'est dit, mais les deux là, ils sont déterminés jusqu'à la muerte, ils ne vont rien lâcher. Et on n'avait rien lâché, c'était notre tempérament. Et alors, on n'a pas été trop loin non plus pour pas perdre la relation, mais c'est suffisamment d'impulsion pour qu'ils se disent que, écoutez, on avait vraiment l'envie de bien faire. Et ce qui est intéressant, c'est que derrière, la relation bancaire, elle est essentielle. Hein, ce sont des partenaires privilégiés. Sans banque, il est impossible de faire de la croissance, en tout cas dans un format plutôt standard. Et on est retourné voir les 9 banques qui nous avaient dit non, avec le premier bilan, puisqu'il était plutôt très bon, le premier bilan de la première année. Et on a eu quasiment 100% d'accord sur le deuxième. Donc, tu vois, on a réussi à inverser un peu la tendance. Mais c'est certain que si tu te décourages, tu te dis, ils m'ont dit non. On parle de construire une entreprise. C'est quand même quelque chose qui n'est pas standard. Une création d'entreprise à 21 et 22 ans, ça reste extraordinaire. Ça sort de l'ordinaire.
Complètement, complètement. C'est assez dingue, surtout que, encore une fois, aujourd'hui, c'est devenu un peu à la mode d'entreprendre, notamment après le Covid, le remote, le freelancing, etc., les réseaux sociaux et autres. Mais il y a 10 ans, ça ne l'est pas du tout et il faut vraiment oser, il faut prendre des risques. Il y a aussi quelque chose de relativement intéressant, c'est qu'à l'époque, la data, l'information n'était pas aussi facile à capter. Aujourd'hui, on peut lancer des publicités, mettre en place différentes choses, analyser plein de choses grâce à Internet, voire même se connecter à différentes bases de données et disposer de ces éléments relativement rapidement. Dans votre cas, il y a quelque chose d'assez original que vous avez mis en place. C'est une approche directe et personnalisée pour mener votre étude de marché en interrogeant les habitants avec des questionnaires. Comment cette stratégie vous a-t-elle aidé à construire le concept et choisir l'emplacement idéal pour votre premier restaurant? Est-ce que tu recommanderais ce type d'approche, ce type de méthode aux entrepreneurs qui nous écoutent? Alors bien sûr, adapté peut-être avec les outils d'aujourd'hui, comme je l'ai évoqué en amont, mais dans quelle mesure cela vous a aidé?
Eh bien, en fait, je pense qu'il n'y a pas une seule méthode, mais c'est un cumul de plusieurs méthodes qui convergent vers l'ambition et l'objectif. Aujourd'hui, on sait que le direct, donc tout ce qui est marketing direct, ça marche, puisque le consommateur, nous, on s'est dit, bah, on connaissait Bordeaux, mais on ne connaissait pas très très bien la ville. Donc, la première question, c'est quelle note donnez-vous au concept de composer vous-même votre salade sur mesure? Combien seriez-vous prêt à dépenser pour manger une salade sur mesure? Et combien de fois par semaine vous pourriez y aller? Et où vous le voyez géographiquement dans la ville? Et en fait, c'est eux qui m'ont influencé, parce que c'était un mélange d'études de marché, de sondages. Et ceux qui, bah, les consommateurs, je crois que j'ai interviewé 300 personnes ou 400 personnes à la sortie de, bah, dans la rue, hein, vraiment comme, tu sais, les troubles, enfin, ce qui, on a ces formats-là un peu, de gens qui t'interpellent dans la rue, tu sais, ils sont un peu vifs
Oui, complètement.
et bien c'est
Oui,
un peu
oui.
ça que j'ai fait. Alors tout le monde n'a pas osé répondre, mais je crois qu'il faut théâtraliser. Il faut considérer le regard de l'autre finalement pas comme un jugement et pas comme un frein. Ça doit être qu'un moteur, ça peut être que de la force que les gens nous ont envoyée. Donc d'aller au contact de la population, d'aller au contact, se confronter, demander et surtout prendre la réponse pas comme on voudrait l'entendre, mais comme elle est réellement. Et cette notion de là, on rebondit sur le faire ce qu'on aime ou faire ce qu'il faut. Eh bien, c'est vrai que si on a envie de s'entendre dire que bah, ça marche, bah, ça va marcher aussi. C'est ça l'histoire. C'est d'œuvrer, de bosser et puis de bosser. Parce que derrière, il y a quand même une petite fausse croyance, je pense, et c'est normal, de tout de suite, parce que c'est la tendance. Il n'y a rien sans rien. Il n'y a que du travail. Et puis la complexité, ce n'est pas d'arriver, puisqu'il n'y a pas de ligne d'arrivée, tout est chemin. Pour notre vision, hein, tout est chemin. Donc, c'est la capacité à remettre de l'intensité dans toutes les actions avec toujours autant de bienveillance, autant de plaisir et puis de discipline. La discipline, elle est, t'en parlais en préambule, tu fais attention à ce que tu manges, tu fais attention à ce que tu consommes, parce que le tout est dans le tout. Si à un moment donné, tu as une alimentation qui est déconnectée de tes ambitions, bah évidemment, tu n'obtiendras pas le résultat. Et puis quand bien même, si tu n'obtiens pas le résultat, dans la remise en question et l'analyse de l'échec, tu vas te dire, bah déjà, je me suis pas bien préparé, je me suis pas, j'ai pas donné tout pour réussir. Si tu donnes tout et que tu échoues, eh ben, on va dire dans la remise en question, elle est beaucoup plus formatrice en disant, bah j'ai peut-être grimpé en mettant l'échelle sur le mauvais mur, alors que de se dire, bah déjà, j'étais mal préparé, j'ai pas tout donné. Évidemment que la conclusion, c'est un échec partiel ou total.
Ouais.
Alors, ça veut pas dire que c'est fatal, hein. Bien au contraire. Mais en tout cas, ça met du plomb dans l'aile. Et comme nous sommes que des humains, évidemment. Le cumul, bah, de coups d'arrêt peut être fatal pour certains.
Complètement, complètement. Et je vais revenir sur la partie franchise. Aujourd'hui, donc, vous avez 73 restaurants en France, 31 en travaux, une volonté d'expansion aussi au Canada et en Espagne. Ça fait 10 ans. Est-ce que tu saurais nous expliquer année après année, plus ou moins, qu'on se rende compte de l'expansion de ce modèle au fur et à mesure? Année 1, vous avez un restaurant, celui que vous avez lancé du coup avec Joseph, ton frère. Comment ça se passe à partir de l'année 2? À quel moment les premiers franchisés rentrent dans la danse? Et quelle est comment dirais-je, l'expansion et la vélocité de croissance du modèle?
On a réellement, tu vois, on avait trouvé un nom qui s'appelle Eat Salad, mange salade en anglais. C'était un nom commercial qui est très fort, mais très difficile à déposer. Personne nous a réellement aidé. Je veux pas m'apitoyer, mais on n'a pas eu d'aide. Le fait d'avoir aucune aide extérieure, ou très très peu, ben ça nous a obligés à être très autodidactes. Et on a déposé la marque dans 69 pays. Alors, on l'a pas fait le premier mois, mais progressivement, on a déposé la marque dans 69 pays, en croquis, en logo, en dessin, en marque semi-figurative, vraiment pour avoir un terrain de jeu bah, qui soit international au maximum. Et on s'est dit, bah, comme le concept c'était de le dupliquer, écoute, on se vouvoyait avec Joseph au service, devant les clients, devant les salariés. Le vouvoiement est obligatoire chez nous partout, parce que ça fait partie d'un degré de différenciation. On a analysé le concept, il y a 580 éléments qui composent le concept de salade classifié en 13 catégories, que sont la zonification, la localisation, les méthodes de vente, la gestion de personnel, gestion de produits, etc. Et le vouvoiement en fait partie des 580 éléments. On s'était autodiscipliné à se vouvoyer parce qu'on, pour apporter un peu de noblesse, pour apporter quelque chose un peu, encore une fois, différenciant. Donc, on était préparé à recruter le franchisé dès le premier jour s'il se présentait. On a fait un coup de pub qui était intéressant, c'est qu'on a acheté la Une du Sud-Ouest, qui est le journal, en tout cas, Sud-Ouest, comme son nom l'indique. On a acheté la Une, et pour le jour de l'ouverture, on a mis en première page, hein, en première page de Garde, on a mis « Eat Salad arrive enfin pour vous à Bordeaux, les 100 premières salades offertes aux 100 premiers clients. » Tu vois, comme si c'était déjà quelque chose qui était institutionnel. Et on a même, pendant les premières semaines, expliqué que nous, on n'était que des salariés et que les fondateurs étaient des Américains de Los Angeles qui avaient eu l'idée que nous, on était simplement leur bras armé ici sur le territoire. Tu vois, pour apporter un peu de profondeur, un peu de grandeur, c'était pas deux minots de 21 et 22 ans, c'était rassurant. Et on a eu, je pense qu'au troisième mois d'ouverture, j'avais des gens qui commençaient à me dire, est-ce que vous franchisez? Alors, on n'avait pas encore analysé le modèle le plus rentable à reproduire. Et on n'avait pas finalisé la transmission efficace du concept à des potentiels franchisés. Tu vois, la rédaction des manuels opératoires, on avait une bible, mais ce n'était pas aussi étoffé que ça devait être pour être un franchiseur en bonne et due forme. Donc, premier pilote, avril 2013, en hyper-centre-ville. Deuxième pilote, zone d'activité, qui sont les deux gros formats qu'on a en France. Zone d'activité en novembre 2014. Donc, on ouvre le deuxième pilote, qui sont finalement les deux modèles qu'on retrouve massivement aujourd'hui sur le territoire national. Et donc, on a analysé de manière approfondie justement ce modèle le plus rentable à reproduire. On a mis une année de préparation pour organiser la reproduction et la transmission efficace du concept. Et en 2015, on recrute et on lance surtout le premier franchisé. Les premiers franchisés qu'on a lancés ont parfaitement tourné. C'est-à-dire qu'ils ont été chercher le million d'euros hors taxe de chiffre d'affaires dès la deuxième année, sur les deux. Donc, ils ont été. Pourquoi? Parce que bah, c'était des franchisés pionniers, c'est des franchisés. Je me souviens, notre premier franchisé, il a vendu sa voiture pour avoir l'apport. Je me souviens comme c'était hier. C'était vraiment, tu vois, un projet de vie, mais un projet économique en même temps. Une grande famille. Et c'est ça qui nous a intéressés, c'est ça qu'on a réussi à aller chercher. En tout cas, sur un déploiement en instinct, hein, parce qu'on n'avait pas encore identifié des zones de chalandise qui présentent un potentiel similaire au modèle pilote pour être reproduit dans les mêmes conditions. On n'avait pas encore toute cette expertise du système de franchise, mais on avait un bon concept déjà, et surtout un concept qui présentait une attractivité supérieure, encore une fois, à un modèle isolé. Donc 2015, première franchise réussie. 2016, on continue. 2017, 2018, on ouvre un petit peu de succursale aussi, parce qu'on avait quand même une rentabilité qui est très forte quand c'est une boutique détenue par la tête de réseau. On a vu rapidement les limites de la succursale, justement le fait de que ce soit des salariés qui opèrent n'a pas la même saveur que lorsque c'est un entrepreneur qui soutient l'investissement, qui le supporte. Il est beaucoup plus impliqué, hein. C'est d'ailleurs ça le levier de la franchise. Si on regarde dans le monde, les plus grandes industries, c'est en franchise qu'elles sont organisées. Les leaders mondiaux sont tous des franchises, hein, sans faire de l'apologie de la franchise. C'est réellement. Nous, on s'est basé sur le travail d'Alfred Pisslone, qui a été à la tête de General Motors pendant 30 ans, et sur les travaux du docteur Potterfield en 69 à Stanford, qui a vraiment mis en lumière ces leviers financiers, économiques, que sont en franchise gagnant-gagnant. On n'a pas recruté que des bons franchisés, on n'a pas trouvé que des top emplacements aussi, parce que bah, on n'est que des êtres humains, et forcément, on a été dans certains quartiers en devenir, bah, qui n'ont pas atteint les performances qu'on voulait. On a des franchisés qui, quand on les a recrutés, étaient dans un moment de leur vie qui correspondait à la réussite en franchise, et puis pour X, Y raisons, ils se sont détournés un petit peu de l'objectif initial. Il faut comprendre que pour réussir en franchise, il faut l'intime conviction que pour réussir individuellement, on doit d'abord réussir collectivement. Et il y en a à l'école, souviens-toi, Alec, qui ne partageaient pas le goûter. Et en grandissant, c'est les mêmes que tu retrouves qui ne le partagent pas. Et ces profils-là, c'est notre quotidien aussi. Donc, on ne fera pas l'unanimité, mais les meilleurs clubs attirent les meilleurs joueurs, on en est convaincu. Et plus le réseau avance, plus on est en capacité de recruter les meilleurs franchisés, et plus que de les recruter, surtout de les garder. C'est ça qui compte.
Complètement, complètement, je te rejoins. Merci pour tous ces éléments et ça donne davantage de clarté sur le modèle. Tu as fait référence à des recherches ou à des personnes qui ont justement démocratisé et contribué énormément au modèle de franchise aujourd'hui, qui effectivement, je l'admets, je le reconnais aussi sur notamment le modèle des business physiques. Le business de la franchise est un des plus puissants, si ce n'est le plus puissant aujourd'hui. On le voit d'ailleurs un point dans le film The Founder, qui revient sur le parcours de Ray Kroc et donc la franchise McDonald's. Et dans ce film, on voit un point qui est extrêmement important, c'est le fameux manuel, le fameux process que tu as évoqué. Et moi, ma question, c'est avec une expansion aussi rapide, aussi dense également qu'elle est aujourd'hui, avec une vision aussi grande, pardon, que vous avez aujourd'hui et que vous avez eu depuis le premier jour qui plus est, quelles ont été les stratégies que vous avez mises en place, que vous avez menées pour garantir une croissance homogène tout en assurant la qualité et la linéarité du processus de qualité et de l'expérience client dans chacun de vos restaurants.
Eh bien, écoute, c'est la capacité de mettre au bon poste le bon profil. Déjà, dans le choix de la zonification, donc de la localisation du point de vente, et puis surtout d'avoir des entrepreneurs qui ne sont pas des investisseurs inactifs. On a formé personnellement les premiers franchisés. Je continue aujourd'hui à recruter personnellement chaque franchisé. Pour le maillage du territoire, par exemple, national, donc en France, il me reste 92 franchisés à recruter pour finaliser 392 zone de chalandise qui présente un potentiel similaire au pilote à reproduire. Donc finalement, tu vois, j'ai que besoin de 92 franchisés pour finir maillage de mon territoire. Ils sont triés sur le volet. Je mets pas de jugement de valeur, mais ce qu'on veut, ce sont d'excellents managers, des gens qui ont du charisme, du leadership et de la diplomatie, une main de fer dans un grand velours. On veut d'excellents gestionnaires, évidemment, mais là, ce sont des ratios de structure, donc ça reste très mathématique, et surtout d'excellents commerçants. Et l'un ne va pas sans l'autre. Et du coup, ben, on a reproduit le binôme. 100% des franchisés Eat Salad sont à deux, voire à trois. Mais il n'y a pas de franchisé seul. Donc c'est un élément fort. Le fait d'être à deux, d'avoir une connaissance de leur secteur d'implantation. Moi, quelqu'un qui me dit, ben, je connais Nantes comme ma poche, je vais ouvrir à Toulouse, ben, pour moi, c'est une ineptie, ça ne peut pas fonctionner. Il faut connaître son tissu économique local. Il faut y être imprégné depuis au minimum 3 ans. Tu vois, pour avoir du poids et finalement. Mettre le meilleur franchisé potentiellement au meilleur emplacement. Parce que la conséquence, si je me place mal le franchisé, c'est qu'il prend la place de quelqu'un qui est potentiellement meilleur que lui. Et ça me dessert. Puisque mon enrichissement, il est proportionnel à l'enrichissement du franchisé. C'est ça qui est fou en franchise. C'est que, à partir du moment où c'est gagnant-perdant, c'est perdant pour l'ensemble des parties. Et il y a beaucoup de bons concepts en France. Je le reconnais qu'il y a énormément de bons concepts. Pas en LC, hein, en France, dans les concepts divers et variés, en restauration également. Par contre, il y a une méconnaissance des systèmes de franchise. Tu vois, de savoir calculer, affecter, de pouvoir justifier d'où va le flux. Je te donne un exemple assez simple, le droit d'entrée. Tu regardes le droit d'entrée, qu'est-ce qu'un droit d'entrée? C'est l'accessibilité à la rentabilité éprouvée. Aujourd'hui, toutes les enseignes sont quasiment au même prix. Tu vois, elles s'alignent tous sur les concurrents. Mais c'est une incohérence économique majeure. Parce que de proposer à des droits d'entrée des redevances identiques, ça veut dire que les concepts les moins rentables sont au même prix que les plus rentables. C'est absolument injuste. Tu vois, c'est pas cohérent. Et c'est cette méconnaissance, malheureusement, qui fait que la franchise est tendance, mais qui peut aussi aller très vite dans une mauvaise direction parce que le modèle du franchisé doit être en adéquation avec le modèle du franchiseur. Ça ne doit pas s'opposer, ça doit fusionner. Mais pour fusionner, il faut recruter avec de la maille fine et animer de manière initiale et permanente.
Complètement. Tu parles beaucoup de l'humain, du bon recrutement, de la bonne personne au bon poste, du fait de recruter aussi non pas des investisseurs mais des entrepreneurs, des personnes qui connaissent justement leur zone de chalandise. Le recrutement aujourd'hui, c'est un enjeu majeur, c'est un enjeu clé pour la plupart des entrepreneurs, ceux qui nous écoutent, mais pas que. Tout le monde doit faire face à ces challenges et doit monter en compétence sur le fait de recruter. On dit souvent, il faut recruter lentement et virer rapidement lorsqu'il s'agit de recruter des collaborateurs, des salariés ou autres. Le fait est que vous recrutez d'une part des collaborateurs, des salariés et vous l'enseignez aussi aux gens qui sont vos franchisés. Mais en plus, vous devez trouver les bons franchisés. Comme tu le disais, voilà, tu as ton maillage national qui est déjà établi, tu as quelques emplacements qui sont encore disponibles, mais tu sais la valeur de chacun des emplacements et donc tu sais l'importance de trouver la bonne personne pour ces endroits. Ma question, c'est est-ce qu'aujourd'hui, avec l'expérience, après ces 10 années d'expérience, de croissance avec It Salad, tu aurais quelques conseils à partager à celles et ceux qui nous écoutent à l'égard du recrutement? Comment trouver les bons collaborateurs? Comment identifier qu'on est face à la bonne personne par rapport au bon poste, que ce soit pour un poste de salarié ou que ce soit pour un poste de franchisé?
Le premier lieu, c'est la définition de poste, la fiche de poste. Il faut qu'elle soit absolument claire parce que sans cette clarté d'une fiche de poste, Tu vois, tu veux prendre un attaquant, puis tu recrutes un défenseur. Alors le défenseur, il peut marquer un but, hein, mais c'est pas ce qu'on va lui demander. Donc c'est déjà un projet d'enseigne qui soit clair et un projet d'entreprise qui le soit aussi. Donc le projet d'enseigne, c'est-à-dire projet, on est toujours, nous, dans la franchise, c'est d'être le leader mondial, et le projet d'entreprise, c'est pour le franchisé de gagner sa vie. Donc c'est ça. Donc comment on peut, bah, finalement avoir une fiche de poste qui soit claire, mais qui va être évolutive, parce que les besoins de l'entreprise, surtout en franchise, ça évolue très vite. Donc quelles capacités ont les collaborateurs à se remettre en question, à être finalement dans une renaissance quasi permanente pour pas atteindre un plafond de verre, et donc bah, de former et de passer du temps. Donc le travail, toujours pareil. La communication, c'est essentiel. C'est souvent le problème majeur, c'est l'interprétation entre ce qu'on a voulu dire, ce qui a été perçu, ce qui a été compris, ce qui a été. Bah, il y a un fossé énorme et ça a fait de la tension. Surtout si à un moment donné, il n'y a pas le temps d'échange au bon moment, eh bien ça crée de la rancœur. Et puis quand la rancœur est là, c'est difficile de faire marche arrière. Comme l'offre, quand même, l'offre en général est assez dense, eh bien les gens ont une volatilité encore plus de nos jours qui peut bah, être pour moi un vrai frein à la croissance. Sans humain, on peut rien faire, de toute façon. Donc c'est vraiment le nerf de la guerre. Le côté commerçant, le côté gestionnaire, à la limite, bon, tu l'as un petit peu en toi. Tu vois, c'est quelque chose qui est. Mais le côté manager, le savoir mettre au bon poste le bon profil, c'est de la légitimité déjà. Il faut être légitime, il faut être crédible, il faut connaître son sujet. Et puis surtout, il faut jamais se comporter comme le patron. Quand je dis comme le patron, c'est comme l'étiquette du patron. Tu vois, avec le un peu ostentatoire, un petit peu suffisant. Ça, pour moi, c'est un gros, gros écueil. Mais au contraire, être très accessible, être sérieux sans se prendre au sérieux. Parce que moi, je crois que c'est un peu comme la confiture. Moins t'en as, plus tu l'étales. Quand t'es serein, quand t'es sûr de toi, ça fonctionne. Quand t'expliques à tes collaborateurs ce que tu veux sans compromis. Tu vois, moi, je sais que j'ai le soir, chacun des collaborateurs au siège doit laisser son poste de travail sans une feuille sur le bureau. Comme si le bureau venait d'être livré le matin même. Tu vois, c'est important. Comme on fait son lit, on se couche. On veut que tout le monde ait les idées claires en arrivant à son poste le lendemain. Quitte à arrêter 10 minutes plus tôt pour ranger son poste de travail, mais tu vois, c'est le côté marathon où on va reproduire la tâche tous les jours de la même manière, avec le sourire. Et avec le sourire, parce que la forme compte autant que le fond. Je crois que l'un ne va pas sans l'autre non plus. Donc, un bon chasseur de tête, j'avais écouté, c'est 7 sur 10. Un professionnel. Hein. Donc, nous qui ne sommes pas des professionnels du chasseur de tête, on va dire, on estime que déjà 50% de bon recrutement, c'est déjà un luxe. Et ensuite, garder les talents de demain. Regarde. Ne serait-ce que le gouvernement, un club de foot, on n'a pas le même gouvernement pendant 30 ans, on n'a pas le même club, les mêmes joueurs pendant 30 ans, ça marche pas. Ça évolue tout le temps et il faut ménager la chèvre et le chou en permanence avec beaucoup de bienveillance, beaucoup de fermeté, parce que l'ambition, ce qui est, en fait, c'est bon pour l'ensemble des parties. Donc il faut un meneur d'hommes, il faut un gardien du temple, mais il faut pas confondre autorité et dictature, parce que là, tu écœures le personnel, tu écœures les collaborateurs, et puis tu rentres dans un peu bah justement le cliché du patron qui est un peu insolent, entre guillemets.
Oui, complètement. Tu as en partie répondu à la question suivante avec ce que tu as partagé, mais si on va un petit peu plus dans le détail, quelles sont les différentes méthodes, les process mis en place ou autres pour accompagner et soutenir vos franchisés dans leur parcours entrepreneurial, notamment en termes de gestion opérationnelle ou même de développement, parce que finalement, l'entrepreneuriat, c'est un métier. Pourtant, on ne l'apprend pas à l'école. Il n'y a pas forcément non plus une formation entrepreneur. Alors, certains diront oui, tu apprends des choses en école de commerce, mais je pense qu'on sait, toi comme moi, que ce n'est pas forcément en école de commerce que tu apprends réellement à devenir entrepreneur. C'est plus comme tu l'as eu dans ton parcours, par exemple, bah, sur les marchés, lorsque tu allais aider ton papa à vendre des poulets rôtis, par exemple, que tu as appris plus, je pense, que dans une école de commerce. Moi, pareil, c'est sur le terrain que j'ai appris plus, je pense, qu'en ouvrant des bouquins ou en regardant des vidéos. Aujourd'hui, il y a effectivement des podcasts ou des choses qui peuvent permettre d'apprendre pas mal de choses. Mais dans votre cas, est-ce que vous avez mis en place, je ne sais pas, des formations en ligne, une académie, des process, des manuels, peu importe. Et dans le concret, comment est-ce que vous faites en sorte de pouvoir constamment faire monter en compétence vos franchisés et leurs collaborateurs? Est-ce que vous avez des organes de contrôle par rapport à ça? Car on le sait tous les deux, quand on commence à avoir beaucoup d'humains, eh bien, il faut aussi pouvoir vérifier ce qui se fait. Donc, comme on dit, la confiance n'exclut pas le contrôle. Donc, par rapport à ça, est-ce que vous avez mis en place des choses? C'est une question dense, mais c'est une question clé.
Et effectivement, la constance est le nerf de la guerre. Donc, il y a un concept qui est transmis, un savoir-faire secret qui est transmis de manière initiale au travers de e-learning, au travers d'une immersion de 240 heures dans des restaurants pilotes, donc une vraie HIIT Academy pour pouvoir apprendre le savoir-faire. Et puis, évidemment que sur une création, on n'a pas la même approche que sur un multi-site ou un multi-enseigne parce que, bien, on apprend à marcher avant de courir. Déjà, ça, c'est réellement la base. Ensuite, je crois que c'est pas un seul faisceau, c'est plusieurs faisceaux qui convergent vers la qualité, toujours pareil. Donc, c'est du terrain, c'est de la pratique, c'est de la théorie. C'est également le fait de mettre en commun. On a mis en place des instances de dialogue et de concertation qui permettent aux franchisés de faire remonter les meilleures pratiques en local pour qu'elles fassent bénéficier et qu'elles servent, pardon, à l'ensemble des autres franchisés. C'est mettre en place des audits, des visites d'animation avec des animateurs réseau qui sont là pour. Nous, on a mis en place 24 critères dynamiques qui sont des critères de performance. On parle de chiffre d'affaires sur le B, on parle de masse salariale sur le chiffre d'affaires, etc. pour pouvoir comprendre et optimiser les leviers de performance issus du modèle, encore une fois, le plus rentable. Donc, c'est vraiment ce calque du modèle le plus rentable qu'on veut reproduire. Il y a, je pense, aussi une notion, comme je dis, de mise en commun des meilleures pratiques, et puis un petit peu d'auto-enseignement, le fait de commettre finalement des erreurs. On est des humains, mais pas deux fois la même erreur qui devient une faute. Donc l'autodiscipline, tu vois, du franchisé qui a mal recruté parce qu'il pensait que tel type de profil pouvait convenir, et puis 6 mois après d'avoir oublié de recommencer, tu vois, de pas capitaliser un petit peu sur les expériences bonnes ou mauvaises. Et ensuite, il y a aussi quand même de l'aléatoire. Tu vois, quand je pense au Covid, ces 4 dernières années, on a eu quand même les gilets jaunes, les réformes des retraites, le Covid, les guerres. On est encore en temps de guerre. Donc, si on ne se comporte pas comme des guerriers, eh bien, ça ne va pas fonctionner non plus. C'est aussi cet ADN, tu vois, cette déontologie de pas se travestir pour l'argent, de pas. C'est la parole qui fait l'homme. Tu vois, c'est les valeurs un peu du marché, ça, mais la poignée de main, le regard, c'est. Je parle sous le contrôle de mon frère associé Joseph, hein. Ça vaut 10 fois plus qu'une signature. Et un poisson mort remontera toujours à la surface. Tu vois, ça sert à rien de faire un peu zéro pour rien. Il faut rester humble, il faut rester travailleur, il faut rester discret. En tout cas en France, tu vois, moi on était en scooter 50 cm3, scooter de livraison au début, puis on a eu un peu de confort matériel. J'ai pas eu de meilleurs amis avec du confort matériel. J'ai eu certes un petit peu plus de douceur dans la vie, mais les gens n'ont pas levé le pouce en disant ça m'inspire réellement, je voudrais avoir aussi, dans le schéma un peu franco-français, malheureusement, ça va évoluer, je l'espère, hein, mais les gens, ils veulent que tu aies plus pour avoir à leur place. Tu vois, c'est un peu incroyable cette culture versus le modèle américain où tu sens que y a un peu moins d'inertie sur ces sujets-là et un peu moins le panier de crabe où personne te laisse un peu sortir. Mais en contrepartie, on a une carte vitale, on a des beaux enrobés sur la route, tu vois, c'est un luxe incroyable de vivre en France, pour garder les pieds sur terre.
Oui, complètement. Je vais continuer sur la partie franchise, expansion, conseil et j'en passe. Mais typiquement, tu parles du Covid. Vous avez des restaurants, c'est des business physiques. Alors certes, il y a la livraison de repas à domicile, différentes choses qui ont pu être mises en place. Mais comment vous avez fait face à ce challenge? Est-ce que c'est un challenge qui a remis en question certaines choses, qui a, comment dirais-je, qui vous a obligé de vous ajuster ou de modifier certains process, certaines choses qui sont restés même après coup? Ça peut être intéressant parce que bon nombre d'entrepreneurs, malheureusement, ils ont perdu des plumes, beaucoup de plumes, voire même certains ont perdu leur entreprise durant cette période qui était vraiment très challengeante. Et d'autres en ont tiré complètement profit. Alors, c'est rare les business physiques qui en ont tiré un grand profit. Par contre, d'autres typologies de business, effectivement, ont pu surfer sur cette vague. Mais vous, dans votre cas, comment vous avez appréhendé la chose, comment vous avez vécu la chose et c'est quoi les enseignements que vous en tirez?
Eh bien, on a énormément appris. De toute façon, soit on gagne, soit on apprend. Hein. C'est un peu bateau comme phrase, mais c'est réel. Si tu penses perdre, c'est perdu. Tu vois, c'est l'état d'esprit, en fait, qui conditionne le reste. Donc, il y a eu une vraie mutation de notre modèle suite au Covid. On faisait des restaurants de 400 mètres carrés avec des aires de jeu pour les enfants. Tu vois, un peu comme un format McDo. Avec donc des gros loyers, des gros capex, des gros investissements. Et puis, aujourd'hui, les gens, à 2 € le litre d'essence, ils réfléchissent avant de prendre leur voiture. Il y a une notion de covoiturage. ce qui est une très bonne notion pour un peu la démarche RSE écologique, et donc bah, les gens consomment différemment. C'est valable pour tous les business et en restauration rapide encore plus. Donc, on a clairement repensé le modèle après Covid avec des boutiques beaucoup plus petites, avec des formats à emporter. Je me souviens, moi, le banquier, il y a 10 ans, il jugeait mon business plan viable au nombre de places assises. Et il m'avait challengé en disant, mais attendez, mais si vous n'avez pas assez de places assises, comment vous pouvez aller faire tel chiffre d'affaires en multipliant, tu sais, par le panier moyen, etc. Alors qu'aujourd'hui, bah, c'est plus du tout le même modèle. La livraison a pris une part de marché qui est forte, l'emporter. Il y a vraiment une vraie évolution depuis le Covid et on s'est plutôt bien adapté. De toute façon, on n'avait pas eu le choix parce que le bon entrepreneur, c'est celui pour moi qui sait prendre la bonne décision au bon moment. Et 3 secondes après, une décision qui paraissait bonne devient mauvaise. Et ça, si tu mets de l'émotion, si tu mets de l'orgueil ou de la fierté, eh bien, tu peux plus faire machine arrière. Il faut garder que de la dignité. Et ça, c'est très, très dur. On n'est que des humains. Mais te dis, non, moi, ça fait 3 ans que j'ai bossé ça sous ce format-là. Hors de question de balayer d'un revers de la main, mais tu maximises ce qui marche et tu minimises ce qui foire. Et tu, entre guillemets, tu renais tes cendres en permanence. C'est ceux-là, pour moi, qui vont rester et qui vont être des institutions. Parce que l'objectif, là, nous, on veut être leader mondial. On ne parle pas d'ouvrir 10 restaurants de plus. On parle de truster le marché aujourd'hui du burger par McDonald's, de la pizza par Domino's et du sandwich par Subway. Donc, voilà, c'est ce travail de fond. Sachant qu'on a. On n'a que 10 ans, même si c'est une grosse tranche, tu vois, on a 10 ans, puis on part de rien, on a tout fait à l'instinct, à la baguette de sourcier, à la genèse. Alors, bien sûr, on a musclé tous les leviers, mais voilà, c'est ça aussi l'histoire et un petit peu le côté accessible, tu vois, c'est réellement accessible pour les auditeurs, si on peut envoyer un peu de force, moi, la récompense, finalement, c'est pas tant pécuniaire, c'est se dire bah, qu'on peut aussi solidairement réussir, on peut inspirer, on peut passer à l'étape d'après avec toujours le goût du travail bien fait et pas de compromis sur la qualité, pas de compromis tout court déjà. Vous voyez, le compromis, c'est dur, hein, ces mots-là, pas de compromis, on se dit, mais attends, il faut toujours faire. Oui, mais à partir du moment où tu fais un compromis, bah, tu déprécies la qualité et sans qualité, ça dure pas, malheureusement.
Complètement, je te rejoins et tu parles aussi d'impact et de l'impact que vous en avez certes sur les gens lorsque tu viens partager votre histoire ou autre, mais aussi sur tous les franchisés, des franchisés auxquels vous avez transformé leur vie également grâce au concept. Je veux revenir sur un sujet, c'est que d'après ton expérience aujourd'hui, en connaissance aussi du marché, de la sophistication du marché, du contexte concurrentiel du marché du fast-food, du marché de la healthy food, donc différents secteurs dans lesquels vous êtes, du marché de la restauration rapide en général. Est-ce que tu saurais nous nommer ou identifier les différents facteurs qui ont été cruciaux pour le succès, la croissance rapide de Eat Salad après coup? Et peut-être que même la question sous-jacente, surtout, c'est que souvent ce sont liés à des fondamentaux et que ce sont peut-être des éléments qui peuvent être appliqués par celles et ceux qui nous écoutent, par nos auditeurs, à leur business. Et c'est ça le plus important finalement également.
Eh bien, je crois que déjà, c'est le positionnement marketing qui doit être différencié. Tu vois, il faut cette différenciation, il faut aller chercher une niche. Si tu penses aller concurrencer le leader institutionnel, c'est brave, c'est honorable, mais ça paraît un peu technique. Tu vois, de prime abord, il faudra peut-être plus d'une vie pour le faire. Donc déjà, c'est de naviguer dans un environnement où on a le maximum de chances de réussir, d'avoir une approche mathématique. Si tu veux, le champ lexical avec Joseph, c'est la rigueur allemande, l'ambition américaine et l'efficacité asiatique, avec la French touch évidemment, mais c'est ça la base de l'entrepreneur pour nous, chevronné ou pas, mais celui qui va le devenir. C'est d'avoir déjà cette vision-là, et ensuite de chercher le business, la niche, qui permet bah, de pas être face à des experts, que ce soit en solidité financière, en expérience, à tout niveau, qui vont bah, nous balayer d'un revers de main. Nous, dans le LC, il y avait des acteurs, il y avait des semi-leaders, sans manquer de respect à qui que ce soit, je ne me permettrai jamais, mais tu vois, il y avait pas d'institution. Aujourd'hui, c'est encore le cas. En LC, je pense que, Alec, tu es en incapacité de me dire quel est le leader mondial. Alors que de la pizza, tu peux, de la voiture, tu peux, de la location de voiture, tu peux le faire, etc. Donc, d'aller chercher quelque chose qui soit déjà, on va dire, accessible ou qui paraît accessible, et ensuite de creuser, d'y aller bloc par bloc avec une énergie, une férocité, dans le bon sens du terme, hein, mais sans faille. En tout cas, des failles, il y en aura, mais pas se gargariser non plus, et passer à l'étape d'après, toujours. Tu vois, la fuite en avant, sans être dans la fuite, mais se dire c'est quoi mon coup d'après, mon anticipation, ma préparation, et de l'organisation. L'organisation, c'est souvent ce qui nous fait défaut à l'humain, c'est qu'on est à l'instinct, tu vois, on y va un peu au flair. Alors ça, il faut garder, parce que c'est important d'avoir quand même la petite voix qui nous guide, mais il faut aller en contradiction un peu avec ses addictions, avec ses, tu vois, cette facilité, parce que c'est un peu de la facilité, mine de rien, sans se mentir, quand c'est plus facile de s'auto un peu croire que de se dire non, non, je vais être dur avec moi-même, je vais tout remettre à plat, je vais faire une colonne plus, une colonne moins, et mon arbitrage, il va être dans la colonne qui a le maximum de données. Et on fait rarement ça. Et ça, c'est valable pour tout. On prend en perso, hein. Une décision, elle se fait pour nous de manière très mathématique. En tout cas, une décision mathématique, elle est justifiable, elle est argumentable, elle est défendable. Quand ça a été fait à l'instinct, tu peux même pas le reproduire. C'est un peu, pas un coup de chance, mais pas loin. Et on va pas laisser notre destin dans les mains de la chance, sachant qu'on maîtrise déjà pas grand-chose dans cette vie.
Complètement, complètement, je te rejoins. Donc, une approche très pragmatique. Je retiens un truc que j'aime beaucoup, c'est, tu disais, la rigueur allemande, l'ambition américaine et les process asiatiques, c'est ça?
L'efficacité asiatique, oui.
L'efficacité asiatique. Je trouve ce concept extrêmement pertinent et je pense que beaucoup d'entre nous, moi le premier finalement, même si je me rends compte que je l'ai un petit peu, devrait le mettre en place et conscientiser le fait de le mettre en place dans ces différents projets, dans ces différents business. Je veux venir sur un point, c'est plus lié aux conseils que tu pourrais partager à celles et ceux qui nous écoutent et qui auraient des business physiques. On sait aujourd'hui les challenges de la création et du développement d'un business physique. Quels seraient les conseils clés que tu donnerais aux entrepreneurs qui souhaitent se lancer dans ce secteur, donc qui démarrent et qui souhaitent se lancer dans ce secteur aujourd'hui, maintenant, en 2023, en 2024, et surtout aussi tenir sur le long terme, comme eh bien, vous avez pu le faire, vous pouvez le faire, et avec cette vision que vous avez. Donc, que ce soit dans un modèle franchise ou que ce soit dans un modèle individuel, quels seraient les différents conseils que tu donnerais à quelqu'un qui veut se lancer dans le business physique?
Le premier, c'est la préparation. C'est la base. J'ai des entrepreneurs que j'ai rencontrés au gré de mon parcours, qui ont ouvert en 5 semaines des business. J'ai dit, mais comment c'est possible en 5 semaines? Le temps, ça ne s'achète pas. On ne peut pas aller plus vite que la musique. Comment vous avez pu incuber? Comment vous avez pu digérer? Comment vous avez pu essayer, faire des tests? Nous, on a construit une boutique avec des cartons de déménagement pour savoir si on passait avec le plateau. Pour, tu vois, c'était de la maille fine, du détail. Mais l'accumulation de tous ces détails vont faire le succès. Et donc, déjà de prendre son temps et surtout de dédicacer 12 heures par jour à la réussite. C'est-à-dire qu'il faut dormir 7 heures pour être en bonne santé, on va dire. On n'est pas égaux, mais bon, entre 6 et 8 heures de sommeil, une bonne alimentation, une discipline, d'économiser au maximum au lancement, mais également quand le succès est là. Tu vois, parce que l'apprentissage de la gestion financière, c'est également aussi un métier dans le métier, et d'être très très attentif, d'être très prudent. De prendre des risques, mais maîtriser. Je crois qu'il faut également s'entourer d'un réseau d'experts, c'est-à-dire de gens. Bernard Tapie était quelqu'un très clivant, mais il disait quelque chose de très intéressant. Il disait qu'à la limite, un bon entrepreneur, c'est quelqu'un qui ne sait rien faire, mais qui s'entoure de gens qui eux savent faire. Et je crois que c'est un petit peu ça aussi, une équipe, on peut rien faire tout seul. En tout cas, l'ambition d'aller vite et fort, seul, ça marchera pas. Donc, c'est d'avoir un réseau d'experts. En France, un réseau d'experts, c'est quoi? C'est un bon comptable, un bon banquier, un bon assureur. C'est déjà le triptyque obligatoire. Sans
Ouais.
comptable, sans banquier, sans assureur, à un moment donné, la maille, elle est trouée, et ça peut être quelque chose de secondaire, devient prioritaire si c'est pas traité. Et puis, je crois qu'aussi, c'est d'être très exigeant avec les différents interlocuteurs. Nous, on n'est pas très académique, comme tu as pu comprendre. Et quand j'étais voir mon comptable, il me parlait à moitié avec des mots anglais que je comprenais pas, tu vois, dans la comptabilité. Et j'ai pas fait semblant de comprendre en disant oui. J'ai dit, excusez-moi, considérez que j'ai 13 ans et que je comprends pas. Donc, expliquez-moi précisément, s'il vous plaît, rapidement, parce que mon temps est précieux, les mots que vous venez de citer. Tu vois, avec fermeté, mais sans complexe de pas comprendre. Parce que je suis qu'humain et c'est pas son jugement qui va m'altérer, mais il faut vraiment être, je crois, dans ce registre-là, en toute humilité, encore une fois. Et puis, et puis pas se prendre pour un autre, tu vois, parce qu'on n'est pas non plus en train de sauver des vies, on n'invente pas des vaccins dans le monde de l'entreprise en général, ça reste un projet économique, mais pour que ce soit honorable, je pense qu'il faut faire vraiment la différence entre ce qui est légal et ce qui est légitime, tu vois, tu peux, nous, je sais qu'il y a des franchisés, on aurait pu avoir un comportement beaucoup plus coercitif que ce qu'on a eu, mais on considère, et ça je pense qu'on peut se le rappeler, qu'un mauvais arrangement vaut mieux qu'un bon procès. C'est très très important. Le pardon, tu vois la notion d'amour, de pardon, parce que on oublie, la colère elle reste pas. L'impulsion, la maîtrise de son émotion, c'est la base même de la conquête et du stoïcisme. On n'est pas égaux, chacun aura sa vision. Je veux pas me positionner comme un instructeur dans ces registres-là, mais je sais réellement que d'être capable de canaliser son émotion, d'avoir du sang-froid, d'avoir finalement de pardon facile, ben ça permet de passer à l'étape d'après. Et la guerre, ça coûte cher et ça rapporte rien du tout. Tu vois, à part des soucis. Aujourd'hui, Alec, je regarde pas dans le rétro. Je te jure, je regarde que le pare-brise. J'ai rien, j'ai pas de cicatrice avec Joseph. On n'a rien fait de borderline. Tu vois, on n'a pas cédé aux sirènes un peu de la facilité parce que. Évidemment que la contrepartie de la facilité, c'est des problèmes. Ça peut pas fonctionner comme ça. Tu peux pas ne pas ouvrir un cahier à avoir 19 sur 20 au bac, à moins d'être un génie. Mais le génie aujourd'hui, c'est pas la moyenne des Français, la moyenne des humains. Tu vois, c'est quelque chose d'un peu divin. Je parle de quelqu'un de standard qui est normal. Eh bien, ça va être le travail, ça va être la rigueur et ça va être la discipline, le socle de tout.
Complètement. Merci pour tous ces éléments. Je vais rebondir sur encore deux derniers sujets et je te poserai ma dernière question que je pose à chaque fois à celles et ceux qui sont présents. Mais avant ça, je tiens vraiment à te remercier pour le partage, pour la transparence. Ça fait extrêmement plaisir de faire cet épisode. Beaucoup de clés, beaucoup d'éléments indispensables à comprendre, connaître et appliquer dans son quotidien d'entrepreneur, peu importe son niveau finalement. D'ailleurs, celles et ceux qui nous écoutent, si vous avez autant de plaisir à nous écouter que je n'ai animé cet épisode avec toi ici, Antoine, eh bien, faites-le nous savoir en mettant les 5 étoiles sur Apple Podcast, les 5 étoiles sur Spotify, en interagissant sous la publication LinkedIn. D'ailleurs, Antoine, on mettra ton lien LinkedIn, on mettra le lien du site Eat Salad, même si je pense que la plupart des gens qui nous écoutent, encore une fois, savent de quoi on parle. Et merci pour ça. Je rebondis donc sur un élément qui a été clé de ton parcours, on l'a compris, c'est ton frère, c'est le fait de travailler avec ton frère depuis maintenant plus de 10 ans. Donc, c'est le sujet de l'association. Lorsque l'on est entrepreneur, souvent on peut à un moment donné se poser la question, est-ce que je me lance seul, est-ce que je m'associe, ou alors on se lance seul et ensuite on va peut-être s'associer. Et travailler avec quelqu'un, en particulier même un membre de sa famille ou un proche, peut être quand même relativement challengeant, voire parfois même dangereux dans certains cas. Est-ce que vous avez toujours trouvé facile de collaborer ensemble? Comment est-ce que vous avez géré les aspects plus délicats de cette association, s'il y en a eu, tout en maintenant, du coup, une relation saine et productive? Parce que ça, c'est vraiment des questions, des enjeux auxquels font face la plupart des entrepreneurs. Comment est-ce que je fais pour gérer comment dirais-je, un sujet sur lequel je ne suis pas forcément d'accord avec mon associé, mon partenaire ou autre, comment on fait les compromis, comment on se répartit le travail, comment on se répartit les tâches, est-ce qu'on établit tout de suite une équité, mais est-ce qu'il y a une équité parfaite entre l'apport de valeur ajoutée de chacun des parties dans le business? Bref, toutes ces questions que la plupart des entrepreneurs se posent quand ils vont s'associer, qu'ils soient deux, qu'ils soient trois, qu'ils soient quatre, qu'ils soient plus, peu importe. Dans votre cas, sur base de votre expérience, comment est-ce que vous avez géré ça?
La première c'est un peu la même réponse que le management, tu sais, la fiche de poste. Le qui fait quoi? Savoir qui fait quoi, déjà, ça évite le cannibalisme, le double usage et le conflit d'ego. Et ça peut tuer très rapidement des relations. Il y a donc déjà la fiche de poste, se dire vraiment, voilà, le qui fait quoi. Ensuite, l'influence extérieure. Souvent, c'est les conjointes, tu vois, les amis proches qui vont un peu t'influencer dans l'émotion sans avoir les tenants, les aboutissants. Et ça peut générer un peu de rancœur. Le problème, c'est que si c'est pas exposé, si c'est pas vraiment, on va dire, analysé et assaini ensemble, et ben ça se gangrène assez vite. Donc, tu vois, cette capacité à communiquer, à causer, à se dire les choses, une capacité de travail équivalente, sans quoi il y aura un déséquilibre qui va naître tôt ou tard. Tu vois, de se dire, bah, ok, on bosse au moins 12 heures par jour chacun, et c'est vraiment 12 heures à haute intensité. Et la confiance n'exclut pas le contrôle, elle l'impose même. Mais de ne pas survérifier le travail de l'autre parce que l'autre a tout donné. À partir du moment où il donne tout, eh bien, tu sais que le résultat ne peut pas être fâcheux parce que 100% de l'énergie a été mise. J'ai envie de rajouter également donc l'ambition commune, partagée, solidaire, hein, c'est ce qui va lier en tout cas les associés. La capacité de dire aussi quand on est mal à l'aise, quand il y a un différend, de ne pas le garder pour soi. Mais il y a une manière de dire les choses. Il faut être un peu diplomate, un peu stratège. Avec Joseph aussi, qu'est-ce qui nous a permis, parce que j'ai des souvenirs où on était à deux doigts de se mettre des coups de coude. Hein. D'ailleurs, on s'en est mis, hein, des coups de coude. Tu sais, avec la fatigue, 3 ans sans un jour de repos, à 23, 24 ans, tu es plein de testo, d'adrénaline. Tu te maîtrises un petit peu moins. On s'est beaucoup chicané et on a pardonné. Voilà, le pardon. Tu vois, de se dire, ben, dans tous les cas, il n'y a pas une volonté de nuire. Il y a peut-être un peu d'ignorance, un peu d'amateurisme, un petit peu d'inconscience même sur certains sujets, mais c'est pas volontairement du mal. Les gens ne se seraient même pas associés si au départ il y avait, tu vois, ce registre. Donc, il faut garder réellement une ambition claire. Il faut causer. Il faut se faire des temps hors du bureau. Moi, je trouve que c'est toujours très formateur. Des fois, tu vois, on reste 24 heures hors de tout, entre nous, pour pouvoir se mettre à plat, mettre à plat un petit peu les idées, et puis faire des réunions tous les jours. Ça, c'est incroyablement la base de tout. Je ne l'ai pas cité. Je veux le mettre en lumière, que ce soit chaque collaborateur, chaque partenaire, une réunion tous les jours, début, fin de journée. C'est réellement la manière de travailler. On peut travailler à distance, même dans un business physique. Mais par contre, on vérifie, on donne des outils, on donne des objectifs atteignables et on met les ressources en face pour que ça fonctionne. Mais ça se tient. Si tu penses que tu as dit les choses et que ça va être fait parce que tu l'as dit, c'est faux. Déjà, c'est faux initialement et de manière permanente, c'est encore plus faux. Il faut matraquer. C'est cette notion vraiment de répétition. Cristiano, si c'est Cristiano, c'est qu'il fait 200 000 coups francs par an. Il s'entraîne. Après le match, il va s'entraîner. Et c'est ça, l'excellence. Et l'excellence, pour nous, c'est ce qui nous anime. Donc, on a une ambition, tu vois, de base déjà qui est partagée et commune.
Ouais, complètement. C'est extrêmement intéressant. Et justement, tiens, je rebondis sur un concept qui est hyper important. Tu utilises le terme excellence. Beaucoup de gens utilisent des mots, des termes, des fois un petit peu à tort et à raison. Je m'en suis rendu compte que ça m'est arrivé aussi. Dans ton cas, pour celles et ceux qui nous écoutent, de façon à ce qu'on mette un peu plus de concret sur ça, c'est quoi la définition de l'excellence dans l'entrepreneuriat, dans son quotidien, ou dans une industrie comme la tienne, dans un métier comme le tien.
La notion d'excellence, si tu veux, c'est de ne pas faire de compromis sur la qualité, de ne pas faire de compromis sur l'amateurisme, de ne pas commettre deux fois la même erreur qui devient donc une faute. Tu vois, ça, c'est réellement essentiel. C'est pas tant le résultat. On parlait de chemin et de ligne d'arrivée. Il n'y a pas de ligne d'arrivée, c'est un chemin. Et dans l'excellence, c'est pareil. Et ce qui est valable aujourd'hui, il n'est même pas demain. Donc, la seule certitude qu'on a, c'est que rien n'est sûr. On est d'accord, il n'y a aucune certitude. Mais c'est pas pour autant qu'il y ait. Dans un milieu aléatoire, on va être aussi aléatoire que le milieu. Si on est carré dans un rond, ben on sera carré dans un rond. Le mieux, c'est d'être carré dans un carré, mais c'est utopique. Donc, cette excellence, c'est tous les jours, avec beaucoup de sourire, de bienveillance, d'humilité, d'aller encore plus fort, encore mieux, et puis d'entraîner les autres. Parce que seul, on ne va rien faire. J'en suis intimement convaincu. On a toujours pris plus de plaisir à être en collectif, à tout. Enfin, je veux dire. Les sports les plus regardés, c'est les sports collectifs. Tu vois, c'est les meilleurs moments, c'est les moments qu'on partage. C'est nos notions de partage, d'équilibre. En préambule, on parlait d'équilibre. Tu utilisais ce mot équilibre. Je crois que c'est un élément essentiel. La pérennité et l'équilibre. Et c'est quoi? Bah, c'est des profits partagés. C'est des contrats. Quand on croit aux choses, on se l'écrit. C'est important aussi de contractualiser les choses, de pas de garder la poignée de main le regard, mais aussi, vu qu'on est convaincu, ben on se l'écrit, ça évitera des problèmes, ça évitera des litiges et une perte d'énergie au profit, finalement, ben de l'ambition, qui est de faire de la qualité, parce que tu es un peu pollué par d'autres aspects du business qui peuvent être, comme je te dis, quelque chose qui est secondaire, devient prioritaire. Une coupure devient une gangrène et puis finalement entraîne la mort.
Complètement. Merci pour ces éléments, merci pour ces réponses. Je vais rebondir sur un autre point, c'est les projets, les différents projets sur lesquels tu es, et aussi la notion d'équilibre, c'est-à-dire qu'en plus de Eat Salad, vous avez également lancé des projets dans le domaine médical, on l'a évoqué lors de la présentation, et les QR codes dynamiques. Comment est-ce que vous organisez votre temps et vos ressources pour vous engager efficacement dans ces différents projets? Est-ce que vous avez une stratégie en particulier ou une routine que vous avez appliquée pour équilibrer ces différents engagements tout en assurant leur succès et puis bien sûr en menant à bien votre vie, votre quotidien.
Effectivement, c'est l'organisation. Ça paraît basique, mais je vais étayer. Moi, je suis chef de famille, donc je veux être un bon père, un bon mari, un bon fils pour mes parents, un bon frère pour mon frère, un bon ami pour les peu d'amis que j'ai. Aussi, hein, dans la notion de qualité, on ne peut pas avoir 50 amis, ça n'existe pas. Moi, j'ai envie de dire que ça se compte sur les doigts de la main. Et donc, c'est l'organisation. La pratique d'une activité sportive et physique quotidienne, au moins 5 sur 7, 5 jours sur 7, est essentielle. De une demi-heure à 1h30, mais il faut pratiquer. Il faut du sommeil et il faut de l'alimentation. C'est vraiment la base de toute entreprise. Quand je dis entreprise, c'est même une entreprise musicale, n'importe quelle discipline, ça va être la base. Ensuite, je pense que dans le choix, nous, dans le choix des business que l'on a, sur le médical, donc la poudre hémostatique qui a pour vocation de stopper des hémorragies en 6 secondes, on a un associé qui se comporte comme un associé, qui ne se comporte pas comme un salarié. Ce que j'entends par là, c'est qu'on ne peut pas courir plusieurs lièvres à la fois. Quand on fait tout, on ne fait rien. La complexité, c'est qu'on. Moi, je crois que l'excellence, elle passe par l'exclusivité. Tu vois, si Cristiano, je reprends souvent Cristiano parce qu'il m'inspire cet homme-là, s'il faisait du basket, du foot et du ping-pong, il ne serait pas aussi bon. Il est bon précisément parce qu'il fait du foot. Et là où il est bon, si tu veux, c'est à 22 mètres quand il est sur son pied droit. C'est là où il est le meilleur. Eh bien, c'est ça. C'est cette capacité vraiment à être dans ce qui se fait de mieux et dans le maximiser et minimiser là où on est moins bon. Nous, on a pris avec Joseph une assistante de vie qui s'occupe de toute notre vie personnelle, c'est-à-dire vraiment tout ce qui pourrait parasiter un petit peu ma concentration dans le monde des affaires. Alors, c'est un luxe qu'on s'est permis après quelques années de dur labeur, mais aujourd'hui, pour pouvoir être bon sur tous les fronts, eh bien, on ne peut pas le faire sans une équipe derrière, tu vois, qui fait vraiment ce travail de fourmi qui n'est pas ingrat du tout, hein, qui est au contraire très gratifiant, mais qui est un peu laborieux, qui est minutieux et qui est précis. Et si à un moment donné, tu as un écueil quelque part, le problème, c'est que ça va un peu contaminer le reste et au final, c'est fâcheux pour tout le monde. Et comme moi, j'ai donné ma parole, tu as compris qu'on y est attentif et on est très concerné par ça, il est hors de question que je me défausse par mauvaise organisation ou par amateurisme. Tu vois, ce serait pour moi très déloyal. Donc, organisation. Et puis s'entourer des bonnes personnes et toujours pareil, mettre à jour en permanence les ambitions communes.
Très clair, très clair. Merci pour ça. J'ai une dernière question pour toi que je pose à chaque invité qu'on a sur le déclic. Est-ce que tu peux nous partager, s'il te plaît, quelque chose que tu n'as pas encore partagé dans le cadre de cet échange, mais aussi que peut-être tu n'as jamais partagé dans aucune interview, qui représente pour toi un vrai déclic, limite une transformation identitaire dans ton parcours? Ça peut être une simple phrase, une situation, une citation, un échec, une réussite, une déception, un succès, peu importe, mais tu as vraiment carte blanche pour le mot de la fin.
Eh bien, écoute, je me souviens au quatrième, cinquième mois de lancement. Donc, on est après l'été et on a le temps que la comptabilité se mette en place. On livrait, tu sais, on avait des scooters de livraison. Puis moi, j'avais la tâche de livrer les salades pour les clients. Et le premier tableau de bord, donc on va dire le premier mini bilan comptable sort et on fait zéro. On n'avait pas de franchisé. On fait 0,70% de marge, même pas 1% de renta. Et on voulait prendre 7% de redevances et de royalties. Donc on s'est dit, attends, on fait même pas 1%, comment on va aller dans ce modèle et aller prendre 7? Avec Joseph, on s'est dit, bon, écoute, si on ne trouve pas une solution, ça s'arrête. On va pas travailler comme on fait, comme des fous, pour moins de 1% de rentabilité. Enfin, tu vois, c'était plus viable. Et j'étais très contrarié, mais putain, pardon, j'étais vraiment touché par cette analyse. Et j'étais en train de livrer, je me souviens vraiment, j'étais en train de livrer mes salades. Et j'ai dit à Joseph, écoute, on va augmenter les prix d'un euro. On a augmenté tous les prix d'un euro. On a proposé une formule moins chère qu'il y avait avant, parce qu'on n'avait que deux formules. On est passé à 8 formules. Donc, tu vois, en augmentant, mais en proposant de dépenser moins. Le mois d'après, le bilan est sorti. On a fait 10 000 euros de bénéfice. Ce qui correspondait au prorata du chiffre d'affaires, si tu veux, à 9,99%. Donc, on s'est dit, ça y est, tu vois, on a clairement avancé. Et si on n'avait pas trouvé la solution, je crois on serait parti sur un autre business. Tu vois, on se serait pas entêté dans l'adversité. C'est pas dans l'adversité, mais la définition de la folie, tu sais pour moi ce que c'est de faire précisément la même action en pensant que le résultat va être différent. Ce sera pas différent, c'est fâcheux. Tu cours tout droit dans le mur, tu le traverseras jamais, tu peux le faire 1000 fois. Ça veut pas dire qu'il faut pas être persévérant et endurant. C'est-à-dire que faire la même chose précisément, ça marche pas. Il faut toujours évoluer, s'adapter. Voilà un petit peu l'anecdote que j'avais envie de te partager aux auditeurs.
Merci Antoine.
Merci beaucoup, Alain.